J'aimerais prendre avec vous la lecture d'un texte dans le livre d'Esther pour la prédication ce matin, qui prendra plutôt la forme d'une exhortation, d'un encouragement sur ce thème de la persécution. Je ne sais pas si vous avez un souvenir de cette histoire d'Esther. C'est un petit livre avec quelques chapitres qui se trouve juste avant les psaumes et le livre de Job. Esther, Job, psaume. Donc si vous trouvez dans votre Bible les psaumes, vous allez un peu en arrière et vous tombez sur un petit livre intitulé Esther. Et pendant que vous cherchez, nous allons lire après dans le chapitre 4, je vais rappeler avec vous les événements qui parcourent le début du livre. Au chapitre 1, on assiste à la mise à l'écart de la première dame, la reine Vashti, la reine de l'empire perse. Elle déplaît au roi Xerxès Ier, Assuérus dans certaines traductions, et il la met à l'écart et il cherche une autre femme pour devenir la première dame. Et dans le deuxième chapitre de ce livre, contrairement au chapitre premier où on voit le déclin de la reine Vashti, on voit l'ascension d'une jeune première, Esther, dont l'identité juive est cachée. On aurait pu remettre la bougie là et le petit support noir devant. Esther est d'origine juive. Et l'histoire qui nous est racontée ici se situe 5 siècles avant la venue de Jésus, à une époque où Israël n'existe plus en tant que nation. Israël est un peuple dispersé, et en particulier dispersé dans le royaume perse. Et dans ce royaume perse, il y a un premier ministre qui entre en scène dans le troisième chapitre, le grand vizir, un peu comme Jaffa dans l'histoire d'Aladin. Le grand vizir, Aman, un premier ministre orgueilleux qui a pris en haine un certain Mardoché, qui se trouve être le tuteur, le parrain de Esther. Mardoché est juif, et contrairement à Esther, cela se sait. Il n'y a pas le petit carton noir devant la lumière. Mardoché dit qu'il est juif, et ce Aman, qui est un descendant du peuple d'Amalek, un ennemi héréditaire du peuple d'Israël, Mardoché, lorsque le premier ministre parade pour se présenter devant le peuple et tout le monde se courbe devant lui, eh bien Mardoché refuse de se courber devant le premier ministre. Et ça suscite chez Aman une haine telle qu'il veut non seulement supprimer Mardoché, mais aussi tout le peuple juif. Et c'est là que nous prenons la lecture, alors que Aman complote l'extermination du peuple juif, une grande persécution pour éradiquer ce peuple de l'Empire perse. Nous allons lire tout ce chapitre 4 du livre d'Esther. Lorsque Mardoché eut connaissance de tout ce qui se faisait, c'est-à-dire le décret promulgué par le roi pour exterminer le peuple juif, il déchira ses vêtements et prit le sac et la cendre pour aller dans la ville. Ce sont des signes de deuil. Il poussait de grands cris amers. Il parvint ainsi vis-à-vis de la conciergerie royale, car il était impossible d'entrer dans la conciergerie royale habillé d'un sac. Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre, les signes de deuil. Les jeunes servantes d'Esther et ses eunuques vinrent le lui rapporter, et la reine en fut toute bouleversée. Elle envoya des vêtements pour en habiller Mardochée à la place du sac qu'il avait sur lui, mais il refusa. Alors Esther appela Hatak, un de ses eunuques, que le roi avait mis à son service. Elle lui donna des ordres au sujet de Mardochée pour savoir de quoi il s'agissait et quelle en était la raison. Hatak sortit vers Mardochée sur la place de la ville, vis-à-vis de la conciergerie royale. Mardochée lui rapporta tout ce qui lui arrivait, ainsi que le détail de l'argent que Haman avait promis de peser dans les coffres du roi pour qu'on fasse périr tous les Juifs. Il lui donna aussi une copie du texte de l'édit royal, l'extermination qui avait été publiée dans la capitale, Suse. Il la montrerait à Esther et il lui ferait un rapport en lui ordonnant d'aller chez le roi pour demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Hatak vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée, et Esther dit à Hatak, en lui ordonnant de les rapporter à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi, ainsi que le peuple de toutes les provinces royales, savent que quiconque, homme ou femme, se présente au roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, est mis à mort en vertu d'une loi, la même pour tous. Seul peut rester en vie celui à qui le roi tend son sceptre d'or. » Or moi, voilà 30 jours que je n'ai plus été invité à venir chez le roi. » On rapporta les paroles d'Esther à Mardochée. Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'ailleurs, alors que toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es devenue reine ?» Esther fit répondre à Mardochée, « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. » Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi, et si c'est pour ma perte, je périrai. » Mardochée s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Ce matin, j'aimerais simplement faire quelques remarques sur ce texte, pour nous préparer à un temps de prière. La prédication sera donc un petit peu plus courte que d'habitude, pour que nous ayons un temps de prière pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Et j'aimerais relever 3 points avec vous ce matin. Le premier, c'est le juge. Le deuxième, c'est l'avocat. Le troisième, c'est les témoins. Le juge, l'avocat, les témoins. Le juge. Qui c'est le juge dans l'histoire ? C'est Dieu, n'est-ce pas ? C'est lui le maître de l'histoire humaine. Et pourtant, jamais son nom n'est mentionné dans le livre d'Esther. Jamais. On ne parle jamais de Dieu dans le livre d'Esther. Et pourtant, il est constamment à l'œuvre. Le verset clé dans notre passage, et probablement dans tout le livre, c'est le verset 13. Mardochée qui dit à Esther, par l'intermédiaire du serviteur, « Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs. » Et un petit peu plus loin, « D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es devenue reine ?» Qui sait ? Dieu sait. Dieu sait toutes choses. Dieu est à l'œuvre. Dieu avait prévu que les événements tourneraient ainsi. Dieu avait prévu cette grande vague de persécution. Et Dieu n'abandonne pas son peuple. Cela veut dire que pour nous aussi, Dieu a un projet, Dieu a un plan, Dieu est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas toujours. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Et Dieu a un projet aussi pour nous en tant qu'église locale. Cet après-midi, nous avons une réunion d'église. Et c'est l'occasion pour nous de chercher ensemble la volonté du Dieu souverain. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Nous avons un rôle à jouer, personnel et communautaire. Nous avons un témoignage à apporter. Marie-France y faisait allusion tout à l'heure en parlant des personnes non chrétiennes qui sont passées hier après-midi avec l'association Maria Dorcas. Et dans cette histoire, nous voyons un personnage clé, c'est Esther. Quel est son rôle? Et là, je passe au deuxième point, l'avocat. Mardochée, pressent que Dieu a placé Esther à cette fonction royale pour servir de médiatrice entre le roi et la sentence de mort. Et Esther va ici plaider la cause du peuple juif. Et vous voyez cette attitude d'Esther. D'abord, elle hésite. Elle hésite. Pourquoi elle hésite? Parce que jusqu'à présent, sa lumière était cachée. Personne ne savait qu'elle était juive à part elle et son tuteur Mardochée. Si elle enlève le cache noir, comme on avait l'image tout à l'heure, et qu'il y a la bougie, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, elle est la première dame, mais elle est une des dames du harem royal. Et elle n'a pas été appelée depuis un mois. Est-ce que le roi va toujours lui accorder sa faveur? Et puis il y a cette loi, dans la loi des Mèdes et des Perses. Vous savez, ça, c'est encore dans le discours aujourd'hui. C'est la loi des Mèdes et des Perses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est immuable, on ne peut pas changer ça. Eh bien, il y a une loi, chez les Mèdes et les Perses, qui dit qu'on ne peut pas se présenter comme ça devant le roi, sous peine de mort. Qu'est-ce qui va se passer si elle tombe en disgrâce aux yeux du roi, en se présentant comme ça? Et elle a peut-être en tête ce qui est arrivé à sa prédécessrice, celle qui était là avant elle, la reine Vashti, qui a été évincée parce qu'elle a déplu au roi. Et donc, cette idée de plaider la cause du peuple pourrait devenir un échec total. Elle hésite donc. Et Mardochée insiste, et je trouve ça génial la manière dont il s'adresse à sa filleule. Il lui dit, verset 13 toujours, « Ne t'imagine pas, majesté !» Vous voyez ce mot-là? « Ne t'imagine pas, majesté !» Ils se tutoient, ils se connaissent, et lui dit « Majesté !» dit, « Si tu te prends pour la reine, et que tu te caches derrière ta fonction royale, ne crois pas que tu vas échapper à la mort. Ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas seul d'entre tous les juifs. » Ici, le personnage d'Esther et son rôle dans l'histoire ici préfigure, annonce la venue d'un autre médiateur, Jésus, le Messie. Après l'hésitation qu'elle a eue, il y a le courage, n'est-ce pas? Verset 16, tout à la fin de notre passage. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Et si c'est pour ma perte, je périrai. Jésus aussi a hésité. Quelques heures avant son arrestation, dans le jardin de Gethsémané. Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Hésitation. Courage d'Esther, hésitation, courage de Jésus. L'évangile de Jean nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a accompli parfaitement ce qu'Esther, en son temps, a fait pour sauver son peuple. Et la suite de l'histoire, si vous lisez à la maison, montre que les événements se renversent et que le peuple juif est finalement sauvé. Et ceux qui avaient comploté contre eux, ce sont eux qui périssent. Mais Jésus, dans l'œuvre qu'il a accomplie, pour sauver son peuple. Il ne l'a pas fait seulement pour sauver son peuple, les Juifs, mais pour tous ceux qui, parmi toutes les nations, placent en lui leur confiance. Quiconque croit en lui ne périra point. Esther joue donc ici un rôle d'avocate, comme Christ, des siècles plus tard, sera l'avocat qui s'interpose entre le juge et la sentence de mort prononcée sur une humanité pécheresse, c'est-à-dire en révolte contre Dieu. Et nous, où est-ce que nous en sommes dans notre témoignage ? Où sont nos hésitations ? Où sont nos moments de courage ? Est-ce que nous avons peur d'être jugés, d'être calomniés ? Esther a risqué sa vie. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour suivre le Christ ? Et j'arrive au troisième point qui va nous concerner plus directement, le rôle des témoins. Premier point, le juge, le maître de l'histoire, Dieu. Deuxième point, l'avocate, Esther, et puis qui représente Christ qui va venir plus tard et qui est venu et en qui nous avons placé notre confiance, nous qui nous disons chrétiens. Chrétien, ça veut dire petit Christ, témoin du Christ. Qu'est-ce que ce texte a à nous dire par rapport à notre témoignage aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit dans ce texte d'Esther chapitre 4 ? On voit des Juifs qui jeûnent, c'est-à-dire qui se privent de nourriture pour prier. La prière n'est pas mentionnée non plus ici, ni dans tout le livre, mais elle est logique, parce que dans les autres textes qui parlent du jeûne dans la Bible, c'est toujours associé à la prière. Les membres du peuple juif jeûnent et donc prient, et ils sont en deuil. Et remarquez que ce deuil, la manifestation de ce deuil, c'est quelque chose de public. Par exemple, Mardoché ne peut pas entrer dans la conciergerie avec ses habits déchirés. Donc les gens le voient et lui disent « Dégage, t'es pas habillé pour rentrer dans la cour royale, tu peux pas. » Donc les vêtements de deuil sont manifestes, sont publics. Et puis au verset 3, « Dans chaque province, partout où parvenait l'ordre et l'édit du roi, il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. » Peut-être que ça faisait un certain bruit. « Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. » Pas forcément à la maison, à l'abri des regards. Peut-être partout dans la ville, sur la place publique. Et puis, il y a donc cette réaction des Juifs qui fait suffisamment de bruit pour qu'elle parvienne jusqu'à la cour royale. Et enfin, attaque, l'eunuque va rencontrer Mardoché, où ça ? Verset 6, sur la place publique. Sur la place publique. Le peuple juif se lamente par rapport à l'injustice qui lui est faite et il se lamente publiquement. Ce qui m'amène à ce qui nous occupe aujourd'hui. Notre église locale, ici au Blanc-Ménil, est connue sur la place publique. Après 20 ans d'implantation dans la ville, nous avons une certaine visibilité. Question, comment notre témoignage influence-t-il le Blanc-Ménil ? Quel impact avons-nous en tant que chrétiens sur notre ville ou sur les villes où nous habitons ? On nous prête des salles municipales, de temps en temps, en tout cas. Les gens de nos quartiers savent-ils que nous sommes chrétiens ? Et qu'est-ce que ça change pour eux ? cet après-midi, nous allons faire le point sur le projet bâtiment. Et nous allons parler des groupes de quartiers. Quelle vision allons-nous développer pour influencer cette ville par l'Évangile ? En préparant la prédication, j'ai pensé à quelque chose d'un peu fou. Dans le projet bâtiment que nous avons pensé jusque-là, nous avons envisagé un logement pour un pasteur et sa famille. Que se passerait-il si, au lieu d'y loger un pasteur et sa famille, nous accueillions avec notre association Synergia une famille de migrants ? Que se passerait-il dans les relations avec la mairie, si nous faisions ce genre de choix? Serions-nous prêts à aller à contre-courant de la mentalité d'un certain nombre de nos concitoyens et de nos politiques qui ne veulent pas de migrants? Comment mettrons-nous en pratique l'enseignement de Jésus par rapport aux pauvres, aux démunis, aux étrangers, si ce mot ne nous choque pas trop? Jésus qui nous appelle à les aimer, c'est-à-dire à les servir. Si nous sommes chrétiens, nous avons de notre côté le juge et l'avocat. Le juge, c'est notre Père Céleste. L'avocat, c'est le Christ qui nous dit, comme il a dit à ses apôtres en Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez bien des afflictions dans ce monde, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Qu'est-ce que nous faisons de ces paroles? Comment est-ce que nous nous engageons à la suite de Jésus-Christ, personnellement et en tant que communauté? Alors que nous réfléchissons à notre propre témoignage aujourd'hui, et c'est aussi le thème de notre année, alors que nous ne connaissons pas encore peut-être, de persécution, nous ne sommes pas persécutés, les amis, ici. Dans les pays qu'on a vus ce matin, oui, mais nous, ici à Blanc-Ménil, nous ne risquons pas grand-chose, pour l'instant en tout cas. Le risque qui nous guette le plus, c'est d'être des chrétiens tièdes, qui dorment, qui se sont refroidis. Personne ne risque d'ennui ici à Blanc-Ménil, aujourd'hui, parce qu'il est chrétien. Aujourd'hui, nous exprimons notre solidarité avec nos frères et sœurs en Christ persécutés dans le monde. Et la soupe que nous allons partager après ce culte, comme Peter l'a dit, un repas simple est une manière d'exprimer notre solidarité. Mais avant cela, nous allons prendre un temps de prière, un temps de prière d'intercession. C'est un gros mot pour dire qu'on va demander à Dieu l'aide pour nos frères et nos sœurs persécutés dans le monde. Et peut-être aussi l'aide pour nous stimuler ou nous réveiller peut-être dans notre témoignage. Dieu nous a fait grâce en nous appelant par le moyen de l'Évangile. Ne gardons pas ce trésor pour nous, partageons-le. Donnons gratuitement, nous avons reçu gratuitement. Alors, prenons un temps de prière pour nous placer dans le même état d'esprit, en tout cas dans une certaine mesure, que ces Juifs dans le livre d'Esther, pour implorer la délivrance de Dieu. Peut-être pas d'abord pour nous qui ne sommes pas directement persécutés, mais pour nos frères et sœurs dans ce monde. Peter a préparé quelques sujets de prière. Ce que nous vous proposons, c'est de nous regrouper, faire peut-être 3, 4, 5 groupes, avec des sujets de prière par groupe, et nous allons prier ensemble pour ces quelques sujets pendant 10-15 minutes. Et après, nous conclurons ce culte.